Nous allons commencer cet appel. Maintenant que nous avons une bonne connexion, pour tous ceux qui sont en ligne, nous avons tous nos présentateurs. Bonjour et bienvenue à l'appel trimestriel des parties prenantes de l'ICANN pour le deuxième trimestre de l'exercice 2017. Je suis Brad White, directeur des communications de l'ICANN pour l'Amérique du Nord. Avant de présenter l'ordre du jour de cet appel, j'aimerais faire quelques remarques. Comme la plupart d'entre vous le savent, pour mieux faciliter la participation de toutes les régions mondiales de l'ICANN, nous varions l'heure de ces appels. La raison pour laquelle cet appel particulier se produit à 15h UTC est que nous espérons augmenter la participation des régions de l'Afrique et du Moyen-Orient. Plus tard dans l'appel, nous entendrons une mise à jour sur les activités dans ces deux régions. Il est également intéressant de noter à ce stade que nous essayons de faire quelque chose de différent dans cet appel. Dans le passé, nous avons posé des questions à la fin de l'appel, mais à partir d'aujourd'hui, nous prendrons également toutes les questions que vous pourriez avoir immédiatement après une présentation, alors que l'information est encore fraîche dans votre esprit. Donc si vous avez une question pendant une présentation et que vous êtes en ligne, tapez-la dans la boîte intitulée « Soumettre votre question ici ». Si vous êtes au téléphone, vous appuyez sur dièse 3 et l'opérateur vous mettra dans la file d'attente. Permettez-moi également d'ajouter que cet appel est en anglais, mais qu'il est simultanément traduit en 6 langues, espagnol, français, chinois, russe, arabe et portugais. Donc si vous êtes sur une de ces lignes, c'est la même chose, il suffit de taper sur dièse 3 et vous pouvez poser votre question et nous entendrons alors l'interprétation. Je vais maintenant passer à l'ordre du jour et vous remarquerez que nos présentateurs sont éparpillés dans le monde entier. Nous commencerons aujourd'hui par une mise à jour du président et Goran Marti qui se joindra à moi ici à Los Angeles. Ensuite, nous irons à Vienne en Autriche pour une mise à jour du conseil d'administration du membre du conseil Shirin Chalabi. Ensuite, nous recevrons une mise à jour de politique de Marika Koenig qui est au Costa Rica, qui est la directrice principale de l'élaboration des politiques et du soutien et chef d'équipe de l'organisation de soutien des non-génériques, la GNSO. Ensuite, Marika présentera Adiel Apklogan, notre vice-président pour l'engagement technique, et nous rejoindra de Montréal au Canada, et il nous fera une présentation de ce qui se passe dans la communauté des numéros. Ensuite, nous irons au Royaume-Uni pour une mise à jour de Sally Costerton. Sally est conseillère principale du président et première vice-présidente de la participation mondiale des parties prenantes. Et après Sally, nous irons à Istanbul pour entendre un rapport sur le développement au Moyen-Orient en Afrique. David Olive nous donnera cette mise à jour. Il est le premier vice-président pour l'élaboration des politiques et le directeur général du bureau régional de ICANN à Istanbul. Et finalement, nous entendrons la mise à jour financière de Xavier Calvez, qui est avec nous ici à Los Angeles. Xavier est notre chef de la direction financière. Permettez-moi de vous dire une fois de plus que pour chacune de ces présentations, nous prendrons vos questions. Donc, pendant que vous écoutez, si vous pensez à une question, veuillez la saisir dans la boîte de questions. S'il y a des questions qui ne traitent pas directement avec la présentation qui vient d'être donnée, nous les garderons pour la fin de l'appel. Si nous manquons de temps ou si vous avez d'autres questions après la session, veuillez les envoyer à engagement@icann.org. engagement@icann.org. Cette session est enregistrée et les liens vers les documents des présentations seront affichés sur le site web de l'ICANN. Vous pouvez également trouver le lien dans la boîte Adobe Connect intitulée Notes. Enfin, je voudrais vous rappeler de mettre vos ordinateurs et vos téléphones en muet. Et je vais maintenant céder la place au président de ICANN, Goran Marti. Bonjour à tous. Nous commençons cette année en nous concentrant sur l'exploitation et l'exécution. Je continue à apporter des améliorations afin que nous soyons mieux en mesure de soutenir votre travail et de manière transparente. Ma priorité après la transition demeure de veiller à ce que nous fonctionnons conformément à nos nouveaux statuts et à notre nouvelle mission et de mettre en œuvre les priorités que vous avez établies en tant que communauté. Je vais en aborder quelques-uns dans cet appel. Nous avons commencé la planification budgétaire pour l'exercice financier de l'ICANN 18 qui va de juillet à juin 2018. Chaque année, nous publions le budget avec des chiffres au niveau du projet pour votre examen et contribution et je me réjouis de l'élaboration de ce budget ensemble. Comme vous le savez, les fonctions IANA sont maintenant exécutées par l'entité publique technique identifiée, PTI, selon les processus et procédures créés par la communauté. Au cours du dernier trimestre, les résultats sur la satisfaction des clients de IANA ont été publiés et je suis heureux de vous dire que nous avons 94% de taux de satisfaction positif. Il y a quelques semaines, nous avons eu une réunion de l'équipe de direction, un atelier du conseil qui s'est tenu à Los Angeles. Nous avons discuté de nombreux sujets et je sais que Chérine abordera davantage cet atelier. J'ai préparé un rapport de PDG pour le conseil qui a couvert de nombreuses mises à jour organisationnelles que vous pouvez trouver sur notre site web. Je vous encourage à lire ces documents. Un des sujets discutés lors de ces rencontres a été la récente ordonnance du gouvernement des États-Unis. J'ai également apporté quelques améliorations organisationnelles pour améliorer la responsabilisation et la transparence. Nous travaillons à clarifier de nombreux processus et procédures de l'ICANN. Nous savons qu'il y a des ambiguïtés à ce sujet, ce qui entraîne une charge de travail accrue et l'incapacité à livrer de façon ouverte et transparente. Nous allons créer ces diagrammes et manuels en s'appuyant sur les travaux matériels existants et les expériences historiques de ces processus. L'objectif est de clarifier les processus pour que tout le monde les comprenne. En le précisant, cela vous aide à mieux comprendre où se trouve l'organisation ICANN pour faciliter ces processus. Cela permet également de clarifier les rôles et les responsabilités entre l'organisation, la communauté et le conseil de l'ICANN et cela nous permettra également de mieux mesurer et de suivre les résultats impact. En outre, ces organigrammes et manuels nous aideront à déterminer rapidement où et comment faire face aux situations où les recommandations, les conseils ou les politiques ne peuvent pas, pour différentes raisons, être mis en œuvre avec succès par ICANN. Exemple, recommandations et organisations de l'ICANN. Lorsque il y a un conflit avec d'autres recommandations, conseils ou politiques non identifiés précédemment. L'exercice de cartographie permettra également d'identifier des zones d'impasse courantes où il n'y a pas de chemin défini si tous les mécanismes actuellement établis pour résoudre le problème ont été épuisés. J'ai hâte de partager ces documents avec vous. En ce qui concerne l'ICANN 58, qui n'est pas très loin, nous organiserons une séance de questions ouvertes où vous pourrez poser à l'équipe de direction et à moi-même toutes questions liées à l'organisation de l'ICANN. C'est quelque chose de nouveau pour vous donner un accès direct pour poser des questions à l'organisation ICANN en plus des forums publics. Dans l'équipe de direction de l'organisation de l'ICANN, Jamie Hadling dirige maintenant la fonction de protection des consommateurs et de conformité contractuelle, un domaine très important pour nous assurer d'agir en conformité avec notre mission et nos engagements. Je tiens également à souligner que le comité de nomination, le NOMCOM, qui est un comité indépendant chargé de sélectionner les postes de direction de la communauté ICANN, recherche des candidatures pour plusieurs postes de direction dans la communauté de l'ICANN. Il est très important d'avoir une communauté diversifiée. Ces positions de leadership sont un excellent moyen pour vous de devenir plus impliqué et d'aider à façonner la coordination technique de l'Internet et l'élaboration des politiques. La date limite pour se présenter est le 21 mars. Enfin, permettez-moi de conclure en disant quelques mots sur mon fantastique voyage en Afrique en janvier, où j'ai eu le plaisir d'aller à Addis Abeba en Éthiopie pour connaître l'Union africaine et visiter notre bureau à Nairobi. Nous avons organisé un excellent atelier de renforcement des capacités en partenariat avec l'autorité de la communication et le gouvernement du Kenya pour la communauté africaine. Il est très important d'avoir ces discussions au niveau local pour accroître la participation de la communauté et créer un impact en Afrique. J'ai été très encouragée par le niveau de participation et d'audience de cet atelier et j'ai hâte de vous voir tous à Copenhague pour ICANN 58. Et je donne la parole à Brad. Bien, merci beaucoup. Nous ne voyons pas de questions ici, ni au téléphone. Donc, je vais donner la parole à Chérine Charabi, qui va nous faire une mise à jour dans son domaine. Bien, merci. Est-ce que vous m'entendez tous? On vous entend très bien, Chérine. Allez-y. Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici et de vous parler au nom du conseil d'administration de l'ICANN pour partager ce que nous avons fait ces derniers temps. Je voudrais aborder deux domaines. D'abord, nos engagements avec la communauté, et les faits saillants de l'atelier de février de la commission. En ce qui concerne les engagements avec la communauté, les membres du conseil ont décidé d'être plus transparents. Et donc, je vais commencer par la participation avec la communauté. Les membres du conseil donc ont participé à 3 événements au cours des 4 dernières semaines. Le premier événement a été une réunion virtuelle organisée par l'association des noms de domaine, DNA. La réunion a été modérée par John Levet, le directeur du conseil. Les discussions se sont focalisées sur l'ordre du jour. Il y a eu un accord concernant les membres du conseil qui allaient prendre la parole au cours de cette réunion, et les discussions ont été très utiles et très intéressantes. Les 4 thèmes sur lesquels nous avons parlé ont été le prochain cycle de nouveaux GTLD, l'indice de santé du marché pour les GTLD, les interactions entre le conseil d'administration et le GAC pour la transition et des fonctions IANA, et la façon la plus efficace de s'engager, de participer au travail du conseil de l'ICANN. Et il y a eu un très bon échange lors de cette réunion entre la communauté et les membres du conseil. Le deuxième événement a été un séminaire web organisé par Niels Sten Oever, responsable de la communication numérique et rapporteur du CCWG et sur les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme, et par Patrick, le responsable de la Société de l'information. Donc, l'objectif de ce séminaire web était de créer un dialogue et une discussion entre la communauté et les membres du Conseil. Et nous nous sommes focalisés sur la recommandation publiée par le Conseil d'Europe, et nous avons analysé les politiques d'ICANN, les procédures concernant les applications du point de vue au niveau de la communauté, du point de vue des droits de l'homme. Ça a été très, très intéressant. Le troisième événement qui a eu lieu à Los Angeles entre le Conseil et les deux co-présidents de RSSAC, Tripti Shina et Brad Baird. Tripti et Brad ont donné un excellent exposé sur les derniers développements concernant la sécurité et la stabilité du système de serveurs racine, qui a été suivi d'une session de questions. Et la discussion a été très intéressante et très instructive. Nous avons parlé du système de serveurs racine, de la façon de continuer à augmenter sa robustesse et le potentiel d'un DNSSEC bien distribué. Nous avons demandé à ce que la réunion continue après le repas. Et donc, c'était 3 événements qui ont été des bons exemples de la façon dont le Conseil veut travailler et participer davantage avec le travail de la communauté. J'espère que nous en ferons davantage. Maintenant, je voudrais vous donner un aperçu de l'atelier que la Commission vient de tenir à Los Angeles du 1er au 3 février. Donc, pour récapituler, et je vais vous dire un peu ce que nous avons fait pendant ces ateliers. Et pour que tout le monde soit au courant, je dirais que le Conseil tient 6 ateliers par an. 3 de ces ateliers ont lieu au début de chaque réunion publique de l'ICANN, mars, juin, octobre. Et on aura donc un atelier de travail à Copenhague au début du mois de mars. Et les 3 autres ateliers se tiennent entre les réunions publiques de l'ICANN, environ au mois de février, mai, septembre. Chaque atelier dure 3 jours. Alors, que faisons-nous pendant ces 3 journées de travail à Los Angeles? Bien, pendant le premier jour, nous travaillons aux réunions du comité du conseil. Et si possible, ce premier jour est également attribué au groupe de travail interne du conseil. Ensuite, le conseil a des groupes de travail hein, qui se réunissent, par exemple à Los Angeles, le groupe de travail du conseil axé sur l'amélioration de la confiance entre le conseil et la communauté s'est réuni. Ensuite, après ces réunions, donc nous réunissons pendant les jours 2 et 3 sur d'autres thèmes. Et nous discutons ensemble. Nous commençons chaque journée de travail à 8h45 environ et nous finissons à 18h45. Hein. Donc, nous travaillons pendant 10 heures par jour. Hein. Nous, à Los Angeles, nous avons organisé ces deux journées sur 5 blocs de travail qui représentent nos principales responsabilités en tant que conseil. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi traiter ces 5 blocs et comment nous avons travaillé, quels étaient le type de thèmes que nous avons, dont nous avons discuté dans chaque bloc. Ce premier bloc, le premier bloc que nous avons appelé « Surveillance du développement des politiques et des initiatives intercommunautaires », ce bloc était dirigé par Becky Burr et notre objectif ici était de s'assurer que le Conseil était bien informé du contenu, de la priorité, du calendrier, de toutes les politiques élaborées par la communauté et d'être prêt à approuver ces politiques lorsqu'elles sont soumises au Conseil. Un exemple de sujet serait une mise à jour sur la piste de travail 2 du CCWG Responsabilité et le RUIS détaillé, par exemple. Bon, ça c'était le bloc 1. Voyons maintenant le bloc 2, qui est le suivi de ICANN.org. Ce bloc est parce que ICANN.org a une responsabilité. Nous avons une responsabilité concernant ce ICANN.org. Ce blog était dirigé par Rhonda Silva. Notre objectif ici était de veiller à ce que ICANN.org fournisse une excellence opérationnelle et un service à notre communauté. Un exemple de sujet ici serait l'examen des indicateurs clés de performance de l'ICANN et l'analyse approfondie des initiatives majeures dans le domaine de ICANN.org. Le troisième bloc que l'on a appelé stratégie et réflexion, qui était une autre responsabilité du Conseil. Il était dirigé par Ram Mohan. Et notre objectif dans ce bloc numéro 3 était de suivre régulièrement la mise en œuvre du plan stratégique et de surveiller les forces et les tendances externes, techniques, politiques, de marché, hein, et d'évaluer leur impact sur l'ICANN. Donc, des exemples de thèmes seraient des questions relatives au nom de domaine, du point de vue technique, qui ont un impact sur l'ICANN. Et un autre thème pourrait être la stratégie de l'internationalisation de l'ICANN. Hein, que faire des plateformes, comment travailler pour notre communauté dans son ensemble. Hein. Voilà, un autre thème. Ensuite, le quatrième bloc, le bloc 4, est le bloc que l'on appelle la gouvernance et la responsabilité fiduciaire. Ce bloc est dirigé par Martin Botterman et notre objectif ici est de s'occuper des responsabilités juridiques et financières du Conseil. Donc, quelques exemples de thèmes, examen des dossiers prioritaires et des affaires juridiques de haute priorité de l'ICANN et bien sûr, le budget de Yana et le budget du PTI, Yana post-transition. Le cinquième bloc, l'engagement communautaire et les relations extérieures. Et là, c'est Lito Ibarra qui s'occupe de ce bloc, dont l'objectif est de soutenir le ICANN-GORG et les deux groupes de parties prenantes de ces groupes, le groupe mondial d'engagement des parties prenantes de l'ICANN et le groupe d'engagement des gouvernements et des OIG pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Donc, un exemple de sujet, on a parlé à Los Angeles du niveau de participation et de soutien de l'ICANN dans les forums nationaux et internationaux sur la gouvernance de l'Internet ou IGF, parce que ces forums restent très importants pour l'ICANN. Et vous entendrez parler plus tard dans cet appel de notre participation récente à l'IGF, à Guadalajara. Donc, voilà, c'était les 5 blocs. Et je vous ai dit et un petit peu le contenu de chaque bloc, chaque responsable de bloc, et d'identifier les sujets à discuter dans son bloc, et d'aborder, de présenter ces sujets à l'atelier du conseil, et de résumer les actions résultant des discussions du conseil sur chaque sujet. Notre intention ici est de nommer chaque année de nouveaux chefs de file, afin de partager la charge de travail et l'expérience de tous les membres du conseil d'administration. Maintenant, en plus de ces blocs de travail, le conseil interagit avec le chef de la, avec le PDG hein, pendant l'atelier de deux façons. Il y a d'abord une session d'une heure intitulée Dialogue du PDG avec le conseil, au cours de laquelle le conseil rencontre Göran sans son personnel. C'est une session de format libre pendant laquelle Göran partage ouvertement avec le conseil toutes les questions qu'il souhaite aborder. C'est un dialogue animé, très bénéfique pour établir la confiance et la compréhension entre le conseil et le PDG. La deuxième façon d'interagir avec le PDG est une séance de 45 minutes ou d'une heure où le PDG et son équipe de direction répondent aux questions des membres du conseil sur un rapport officiel que le PDG soumet au conseil environ 10 jours avant l'atelier. Ce rapport donc est présenté 10 jours avant l'atelier et il comprend un résumé des activités et des enjeux pour chaque département sous la responsabilité de Göran. Donc tous les membres du conseil d'administration lisent ce rapport avant l'atelier, 10 jours avant l'atelier, et aucune présentation n'est donnée pendant cette séance, pendant cette session. Nous plongeons immédiatement dans la session de questions et de réponses sans perdre du temps. Bien, si vous avez la possibilité de lire ce rapport, je vous recommande de le faire. Bien, voilà, c'est ce que nous faisons dans ce type d'atelier. Et nous ferons de nouveau la même chose lors de l'atelier de Copenhague de 3 jours. Et ensuite, donc le samedi et le dimanche, le conseil de l'ICANN se réunira. Bien. Donc cela conclut ma mise à jour. J'espère que cela aura été utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et je donne la parole à Brad. Merci Sherry, nous vous remercions pour ces informations. Nous allons maintenant aller à Costa Rica et donner la parole à Marika qui va faire une mise à jour donc politique. Ensuite, elle va donner la parole à Adiel qui nous fera un petit peu la présentation de la communauté des numéros. Marika, vous avez la parole. Merci beaucoup Brad. Comme vous le savez peut-être, le travail d'élaboration de politiques d'ICANN relatives aux fonctions de coordination technique est formé par la communauté d'ICANN. Plus précisément, il est fait par les 3 organisations de soutien et influencé par 4 communautés, comités consultatifs. Il est en adéquation avec les processus de bas vers le haut, multipartite, ouvert et transparent de l'organisation. D'autres organisations politiques techniques de l'Internet participent également à l'élaboration de politiques, des groupes comme l'Internet Engineering Task Force et les registres Internet régionaux. Pour donner un aperçu des activités d'élaboration de politiques, la mise à jour de la politique d'aujourd'hui portera sur le travail de plusieurs groupes de l'ICANN, notamment l'organisation de soutien au nom générique de la GNSO, l'organisation de soutien au nom de pays CCNSO, l'organisation des ressources numériques LANERO et l'organisation de soutien aux adresses ASO. Je vais parler des deux premiers, de la GNSO et de la CCNSO, et dans quelques minutes, Adiel Aklogan parlera de la NRO et de l'ASO. Nous passons à la prochaine diapo qui montre les points forts de l'organisation de soutien au nom générique ou GNSO qui inclut pour ce trimestre l'approbation du cadre final pour les futurs groupes de travail intercommunautaire qui ont été élaborés par un groupe de travail intercommunautaire organisé conjointement par la GNSO et la CCNSO et la nomination de Carlos Raúl Gutiérrez comme liaison de la GNSO auprès du comité consultatif gouvernemental, le GAC. La GNSO a également adopté le rapport final du groupe de consultation GAC-GNSO qui contient un certain nombre de recommandations visant à faciliter l'engagement précoce du GAC dans l'élaboration des politiques de la GNSO. Le plan de mise en œuvre du groupe de travail sur l'examen de la GNSO a été adopté et envoyé au Conseil de l'ICANN pour qu'il soit considéré. La GNSO a également adopté et envoyé au Conseil son examen du communiqué du GAC d'Hyderabad. L'organisation de soutien au non-générique a accepté le rapport final de l'équipe de rédaction des statuts de la GNSO. Ce groupe a été chargé d'identifier tous les droits et responsabilités supplémentaires que la GNSO détient en vertu des statuts révisés. Cela incluait, mais ne se limitait pas, à la participation de la GNSO au sein de la communauté habilitée. Il a également été chargé de développer des structures nouvelles ou modifiées qui pourraient être nécessaires pour mettre en œuvre ces nouveaux droits ou responsabilités. La GNSO travaille actuellement à traduire ses recommandations en modifications proposées au statut de l'ICANN et ou aux procédures opérationnelles de la GNSO. La GNSO a également confirmé sa participation conditionnelle en tant qu'organisation membre du groupe de travail intercommunautaire sur la gouvernance de l'Internet. Sa participation repose sur un examen approfondi de la charte du groupe de travail, conformément au cadre du CCWC. On s'attend à ce que cet examen soit terminé et présenté au moment où l'ICANN 58 commencera. Le Conseil de la GNSO a également adopté la charte pour un groupe de travail intercommunautaire sur les nouveaux produits des enchères de GTLD. Il a également nommé 5 membres au CCWG, dont Jonathan Robinson, qui est le coprésident désigné pour la GNSO au CCWG. À ICANN 57, James Blader a été reconfirmé comme président de la GNSO pour une autre année et Donald Austin et Heather Forrest ont été réélus au poste de vice-président du Conseil de la GNSO. Actuellement, la GNSO compte 9 processus d'élaboration de politiques en cours qui continueront de se concentrer au prochain trimestre. Naturellement, il se situe à différentes étapes du cycle de vie du processus d'élaboration de politiques, PDP. Les questions abordées dans la phase du travail actuelle sont les suivantes. Nouvelles procédures GTLD, GTLD ultérieures. Examen de tous les mécanismes de protection des droits RPM dans tous les domaines génériques du premier niveau, les GTLD. La prochaine génération des services annuaires d'enregistrement pour remplacer WHOIS et finalement l'utilisation de mécanismes de droit curatif pour protéger les noms des OIG et des OING. Ces travaux au cours du deuxième trimestre, la CCNSO poursuit ses travaux sur la mise en œuvre de la transition de la supervision de l'ANIA et des propositions de responsabilisation de l'ICANN. Le groupe de travail pour la sécurité, la stabilité et la résilience et les services d'urgence. Le groupe de travail de la CCNSO sur le processus se focalise sur les aspects des mécanismes de la communauté habilitée. Mais je voudrais aussi mentionner quelques points liés à la CCNSO. La CCNSO est le groupe de travail qui travaille sur le processus élargi d'examen de la similarité a finalisé son travail après la clôture de la période de consultation publique. Le projet a été présenté à la communauté lors de la réunion d'Hyderabad. À la suite de ce qu'il a étendu, ce groupe a continué à travailler sur le rapport et les mises à jour finales sont maintenant examinées par le conseil de la CCNSO. Comme je l'ai mentionné dans mon dernier résumé général, la CCNSO a lancé un effort politique combiné sur le retrait des CCTLD. Il s'agit d'un processus clé pour lequel aucune politique n'existe actuellement. Le travail est également progressif sur l'élaboration de recommandations de politique pour un mécanisme d'examen qui traitera des décisions relatives à la délégation, la révocation, le transfert et le retrait des CCTLD. Ce mécanisme d'examen est explicitement exclu des propositions de responsabilisation et de supervision de sorte que l'élaboration d'une politique est considérée comme une priorité élevée. La communauté a été invitée à définir la portée des processus et des questions qui doivent être résolues. Cela sera fait en rédigeant les chartes du groupe de travail nécessaires pour répondre aux deux efforts. La charte et les définitions de la portée seront incluses dans le rapport thématique. Ce rapport devrait être disponible et présenté à la communauté lors de la réunion de Copenhague à ICANN 58. Et maintenant, je donnerai la parole à Adiel Ablogan, vice-président de l'engagement technique, qui fera une mise à jour à propos de l'ASSO et de la NRO. Merci, Marika. Comme vous le savez tous, une partie importante du travail des membres de l'ASSO se fait au niveau régional par l'intermédiaire des RIR et de leur communauté. Et donc, dans cette partie de la mise à jour, je vais vous donner un aperçu de ce qui s'est passé depuis la dernière mise à jour. En termes de structure, les SOEAC a choisi Phyllis Yilmaz de la région de Ripe NCC comme nouveau président et Louis Lee de la région de Harin et Ricardo Patara de l'ACNIC vont continuer à siéger en tant que vice-président des SO et des AC. Nous voulons féliciter ces nouveaux présidents et vice-présidents. Depuis le 1er janvier, le conseil exécutif de la NRO a fait tourner ses dirigeants, comme d'habitude, avec maintenant John Curran, le PDG d'Arin, qui est le président, tandis que Paul Wilson, le directeur général d'APNIC, est maintenant le secrétaire, et Alan Barrett, le PDG d'AFRINIC, est le trésorier. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec cette nouvelle équipe de leadership. En ce qui concerne les activités, l'ASSO planifie sa réunion annuelle lors de l'ICANN 58 à Copenhague. D'autres détails de l'ordre du jour seront publiés en ligne, donc nous vous encourageons à aller consulter l'ordre du jour de ICANN 58. Lors de la préparation de cette présentation, la NRO a examiné les propositions qu'elle a reçues pour effectuer une révision indépendante de l'ASSO. Cette révision est maintenant terminée et ITEMS International a été sélectionné pour effectuer cette révision. Le comité de révision des services de numéro a accueilli de nouveaux membres, Omo Oyaya d'AFRINIC et Brayesh Jain d'APNIC, en tant que nouveaux membres en 2017. Vous savez peut-être que ce comité est l'un des éléments clés de la proposition communautaire de numéro pour la transition de la supervision des fonctions IANA. Il a la responsabilité de surveiller la bonne exécution de l'accord de niveau de service entre ICANN et les RIR. La NRO et l'ASSO ont continué d'être représentés et de participer dans la discussion de la piste de travail numéro 2 du CCWG responsabilité. Ils sont représentés par Izumi Okutani, Jorge Villa, Fiona Songa, Atina Fraculi et Michael Abechuela. Les prochaines réunions de RIR sont les suivantes. APNIC 43 qui aura lieu à Ho Chi Minh au Vietnam du 20 février au 2 mars 2017. ARIN 39 qui aura lieu pour la région d'Amérique du Nord à Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, donc du 2 au 5 avril 2017. RIPE 74 qui aura lieu à Budapest, en Hongrie, du 8 au 12 mai 2017. L'ACNIC 28 qui aura lieu à Foz do Iguaçu, au Brésil, du 22 au 26 mai 2017. Et AFRINIC 26 qui aura lieu à Nairobi, au Kenya, du 29 mai au 2 juin 2017. Comme la plupart des activités de développement, des politiques liées à la gestion des ressources numériques se déroulent au niveau régional, les membres de la communauté intéressée sont invités à assister à ces réunions qui sont ouvertes à tous. Vous pouvez en savoir plus sur ces mises à jour sur le site web de NRO, www.nro.net. Merci pour votre attention et je donne la parole à Brad. Merci.
Merci Adiel. On n'a aucune question pour Marika ou pour Adiel. Donc dans ce contexte, nous allons nous déplacer vers le Royaume-Uni pour recevoir la mise à jour de Sally Costerton. Sally ? Sally au micro. Merci Brad. Vous m'entendez ? Très clairement, dit Brad. Salut au micro. Bien, bonjour, bonsoir à tous. Comme Yoran disait tout à l'heure, l'organisation ICANN s'est concentrée sur le renforcement des processus et des procédures afin d'être mieux équipée pour soutenir le travail de la communauté. Je vous présenterai une mise à jour brève sur beaucoup des services que l'organisation ICANN fournit à la communauté. Depuis la transition des fonds FIANA à la communauté multipartite, ces services sont désormais fournis par une entité qui s'appelle Identificateur Technique Public, ou PTI. Je suis ravie d'informer que les résultats du sondage de satisfaction des consommateurs du département Guyana montrent une qualification de satisfaction générale de 94%, ce qui se correspond aux années précédentes. Mais bien sûr, on cherche à trouver des manières pour améliorer cela. Le groupe est désormais responsable du suivi de la performance de la PTI à travers le comité permanent des clients. Et je suis contente de vous informer que pour le dernier trimestre, le comité a décidé que la PTI s'était conformée aux différents contrats des niveaux de service pour la fonction de Nomagiana. Les services principaux fournis par la PTI sont les demandes de nom, de numéro et de paramètres de protocole. Voyons un peu les statistiques. La PTI a traité 501 demandes liées au domaine, dont 9 liées à ce sujet, 994 demandes liées aux paramètres de protocole et leur registre, et 414 étaient des requêtes générales. Il n'y avait pas de demande qui porte sur les attributions de numéros et une seule demande portée sur la cérémonie de signature de clé en Virginia. Les cérémonies de signature de clé sont toujours publiques et elles sont très contrôlées puisqu'elles impliquent la signature des informations de clé publiques de la zone racine du DNS, ce qui assure que les utilisateurs Internet puissent faire confiance à l'intégrité et l'authentification des informations. Sous peu, nous allons voir la première modification de la clé de signature de clé, KSK, depuis sa création en 2010. Cette initiative de changer les clés du DNSSEC est importante pour aider à assurer la sécurité du DNS et marque un bon protocole de sécurité, tout comme nous changeons nos mots de passe de temps à autre. Le bureau de la CTO est en train de diriger cette initiative et nous nous concentrons en ce moment sur la sensibilisation entre les parties prenantes et le public général. En même temps, nous essayons de nous assurer qu'il n'y aura aucun impact que les utilisateurs de l'Internet puissent identifier. Le projet pilote de l'initiative Open Data, qui a été lancé à Hyderabad, vise à mettre à disposition du public certaines données concernant l'ICANN, ce qui pourrait comprendre les fichiers de zone GTLD, les données de suivi des niveaux de service pour les registres et les bureaux d'enregistrement et autres. Notre intention est donc d'être aussi transparent que possible avec nos données dans le bénéfice de la communauté. Nous cherchons également des manières de mesurer la santé des identificateurs uniques de l'Internet et une période de consultation publique a récemment conclu en fin janvier. Nous sommes en train de travailler sur la révision des commentaires reçus. L'ICANN continue de même à travailler avec les différentes forces de l'ordre de partout dans le monde. Et comme vous saurez, en octobre, un réseau zombie a attaqué l'infrastructure du DNS, ce qui a provoqué des interruptions du service Internet aux États-Unis et en Europe. L'ICANN a travaillé avec Europol pour pouvoir chercher à trouver d'expertise concernant l'infrastructure du DNS et pour apporter les politiques et les processus de l'ICANN. Ces rapports avec les forces de l'ordre sont clés pour pouvoir préciser la portée et la mission de l'ICANN tout en protégeant la stabilité, la sécurité et la résilience de l'Internet. On a également commencé à travailler sur la récollection de données pour l'évaluation de préparation de l'IPv6, des infrastructures et des applications de l'ICANN. Du côté de la technologie, nous sommes en train de travailler sur des améliorations à l'infrastructure des TI pour mieux soutenir la communauté et l'organisation. En novembre, nous avons lancé notre premier système de planification de ressources de la société afin de pouvoir rationaliser les fonctions de back-office, ce qui comprend ressources humaines, les achats et les finances. Quant aux parties contractantes, nous continuons de travailler sur le portail de la division des domaines mondiaux qui, à l'origine, sera utilisé pour gérer les services de registre, mais dans l'avenir, nous prévoyons également d'y ajouter le soutien au bureau d'enregistrement et aux services de conformité. Nous en rencontrerons davantage dans les mois à venir. Quant à la communauté, un nouveau site web du comité consultatif gouvernemental, donc le GAC, qui ajoute les dots CMS, le nouveau système de gestion des contenus de l'ICANN, a été démontré lors de la 57e réunion publique de l'ICANN. Tout a été élaboré ensemble avec le GAC et la version finale est en train d'être définie avec le GAC. Passons maintenant aux révisions. Les statuts constitutifs de l'ICANN prévoient des évaluations pour voir si l'ICANN, ses comités consultatifs et ses organisations de soutien opèrent effectivement, si elles complètent leurs objectifs et si elles sont responsables envers la communauté multipartite. Trois révisions spécifiques, celle de la stabilité, la sécurité et la résilience, celle du service d'annuaire de l'enregistrement, qui était avant la révision du WIS, et la troisième révision de la responsabilité et de la transparence, ont été initiées et ont lancé leurs appels à volontaires. Nous allons donc sélectionner les membres des différentes équipes à travers les SO et AC, suivant le nouveau processus post-transition. En ce moment, la révision spécifique de la concurrence, le choix et la confiance des consommateurs est sous le point d'être conclu. Le rapport préliminaire pour la deuxième révision organisationnelle à large est disponible à consultation publique jusqu'au 28 mars. La révision GNSO 2, donc révision organisationnelle de la GNSO, en est maintenant à l'étape de la mise en œuvre. Le conseil de la GNSO a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations de la révision de la GNSO élaboré par le groupe de travail de la révision de la GNSO pour 34 sur 36 recommandations qui lui ont été formulées, ce qui contient un calendrier réaliste pour la mise en œuvre et la définition des résultats attendus. Il reste à voir si le conseil d'administration acceptera le plan de mise en œuvre avant de lancer les travaux. Passons maintenant à la division des domaines mondiaux. C'est là que les politiques sont mises en œuvre par la communauté et approuvées par le conseil d'administration. Et c'est là également que la plupart de nos services de soutien de la communauté sont assurés. En fin 2016, il y avait 1229 accords ou contrats de registre qui ont été signés et un total de 1215 nouveaux GTLD ont été délégués. Les revenus des enchères sont d'environ 233 millions de dollars. Ces fonds sont réservés et séparés des fonds opérationnels de l'ICANN en conformité avec ce qui est prévu dans le guide de candidature au nouveau GTLD. Un groupe de travail intercommunautaire a été formé pour élaborer des propositions concernant l'attribution et l'assignation de ces revenus des enchères. Notre centre de soutien mondial fournit du soutien aux parties contractantes, aux candidats au nouveau GTLD et à la communauté Internet élargie. Cette équipe a atteint ses cibles de service au niveau de la réponse et de la résolution de dossiers. 90% des dossiers reçus ont été répondus et 97% ont été résolus dans la période des 7 jours. Dans le dernier trimestre, il y a eu une augmentation légère de la quantité de dossiers. Ils ont reçu 2800 dossiers à peu près et 2700 ont été résolus. Concernant les noms de domaines internationalisés, nous continuons de faire des progrès pour faire que les noms de domaines et l'Internet soient plus mondiaux et plus accessibles dans toutes les langues et tous les scripts. En octobre, la communauté du script grec a formé un panel pour développer les règles de génération d'étiquettes qui seront utilisées pour gérer la manière dont la zone racine est exploitée. En outre, les communautés des scripts Lao et Thaï ont conclu leur proposition de règles de génération d'étiquettes pour la zone racine, ce qui fait maintenant un total de 6 règles de génération d'étiquettes suivant l'arabe, l'arménien, le géorgien et le khmer. Voyons d'autres faits saillants du dernier trimestre. En décembre, l'organisation ICANN a mis en œuvre un cadre pour aider les utilisateurs Internet à ne pas avoir des confusions entre les noms de domaines qui sont des codes de pays et les noms de domaines à deux lettres. L'ICANN a donc autorisé la libération de 280 000 étiquettes supplémentaires au second niveau pour les opérateurs de registre qui suivent ces mesures. En fin décembre, nous avons publié un rapport du personnel par rapport au processus de consultation publique concernant les amendements proposés au nouveau contrat de registre pour les nouveaux GTLD, qui est un modèle, et cela comprend une partie d'analyse et détaille les discussions entre l'ICANN et le groupe de travail une fois que les commentaires publics avaient été reçus. D'autres nouveaux rapports ont également été publiés au cours du trimestre, ce qui comprend un rapport du système de rapport de l'exactitude du WIS. Nous avons également publié une première mise à jour de l'indice de santé du marché des GTLD qui présente des statistiques et des tendances liées au GTLD et qui fait le suivi des progrès de l'ICANN vis-à-vis de son but de soutenir l'évolution du marché des noms de domaine. D'autres périodes de consultation publique ont été ouvertes et un rapport récapitulatif a été publié concernant l'évaluation de la deuxième étape des effets concurrentiels associés au programme des nouveaux GTLD. La période de consultation publique a également été ouverte pour le rapport préliminaire concernant l'analyse sur les données continues de la stabilité du système des serveurs racines qui s'occupe également des politiques appliquées aux services d'annuaire des données d'enregistrement de registres qui sont conformes aux étiquettes existantes. Un rapport récapitulatif de cela a été publié en début janvier. Les processus de consultation publique, comme vous savez, sont essentiels pour obtenir les contributions de la communauté et ça fournit à la communauté la possibilité de participer à cet important processus. Un autre processus important est celui de la conformité contractuelle qui vise à faire le suivi proactif et à travailler avec les parties contractantes pour garantir leur conformité avec nos politiques et contrats. Le programme d'audit de conformité contractuelle est en cours en ce moment et le dernier trimestre, nous avons lancé une nouvelle série de l'audit du contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement de 2013 qui gère les relations entre l'ICANN et les bureaux d'enregistrement accrédités. Dans cet audit, un total de 55 bureaux d'enregistrement ont été sélectionnés, sur lesquels 46 ont été des audits complets et 9 ont été des audits qui reprenaient les questions qui avaient été identifiées lors d'autres séries d'audits. Les rapports des préliminaires des audits ont été publiés à la fin de janvier. Le dernier trimestre, on a eu un volume général de plaintes reçues qui présentait une augmentation légère vis-à-vis du trimestre précédent. Le taux de conclusion des dossiers s'est réduit, mais était toutefois par-dessus nos cibles, parce qu'on avait reçu plus de plaintes, bien sûr, et on a eu les vacances et les fêtes. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page de conformité contractuelle sur notre site web. Nous avons différents programmes pour soutenir une communauté diverse, soutenable et croissante lors des réunions de l'ICANN. La 57e réunion publique de l'ICANN a marqué un record concernant la quantité des participants. On a eu plus de 3100 personnes enregistrées, sur lesquelles 1900 étaient des nouveaux arrivants et 1300 de ces nouveaux arrivants venaient de l'Inde. Le programme des boursiers avait 47 boursiers lors de cette même réunion et le programme de NextGen qui se centre sur la formation d'une communauté durable avec 15 participants. Lors du dernier trimestre, on a eu 200 événements dans 56 pays avec une sensibilisation qui a atteint plus de 8000 personnes au niveau mondial. Nous avons également facilité plus de 15 événements de formation pour le DNSSEC, la mercatique du DNS et les questions de gouvernance Internet dans les différentes régions. L'un de ces premiers événements était le premier forum du DNS européen en Europe de l'Est à Kiev, en Ukraine. Nous continuons également de travailler sur nos efforts pour renforcer la sensibilisation vis-à-vis du rôle de l'ICANN dans l'écosystème Internet à travers notre fonction de participation des gouvernements. Ce que vous voyez ici montre quelques-unes de nos activités. Nous avons assisté à plusieurs événements pour expliquer le processus de mise en œuvre et la piste de travail numéro 2 pour renforcer la responsabilité de l'ICANN et encourager la participation. Ce dernier trimestre, nous avons également tenu le Forum de gouvernance Internet mondial 2016 à Guadalajara, ce qui était un succès, et c'était le premier forum mondial depuis que l'ONU a renouvelé le mandat du GGI pour une autre dizaine d'années. Nous avons également eu d'autres délégations dans la zone racine que vous voyez ici, et je redonnerai maintenant la parole à Brad. Brad White au micro. Merci Sally, merci de nous expliquer ici la délégation de Dot Africa qui était également un succès. Nous allons maintenant passer à David Olive à Istanbul. On avait quelques soucis de connexion tout à l'heure. Je pense que cela a été résolu. Si David se déconnecte, on verra comment on procède. David, David Olive au micro. Merci Brad. Je vous remercie tous d'être connectés à cet appel. Je suis à Istanbul, comme vous savez, et je participe en ce moment à notre troisième forum des DNS où nous présentons notre programme. Nous avons ici les parties prenantes turques qui écoutent en ce moment nos rapports. Notre quartier général de cette région a été inauguré à Istanbul en mai 2013 et couvre les régions d'Europe, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie centrale et Afrique. En ce moment, nous avons 53 membres du personnel sur lesquels 20 travaillent dans nos bureaux d'Istanbul. Nous assurons 11 fonctions clés, ce qui comprend le soutien de l'élaboration de politiques, la conformité contractuelle, les services enregistrés au bureau d'enregistrement, la participation des parties prenantes, les communications, les réunions de l'ICAN, les services de contact mondiaux, les ressources humaines, la technologie de l'information, les services d'administration et d'opération du conseil d'administration. Au cours des dernières années, nos activités et la participation ont beaucoup augmenté dans cette grande région. Et il faut noter qu'une bonne proportion de notre travail implique des initiatives en collaboration avec nos parties prenantes régionales et la participation de ces mêmes parties prenantes aux événements liés à Internet pour aider à promouvoir l'ICAN et le modèle multipartite. Lors de cet appel multiple des parties prenantes trimestrielles, nous allons fournir une mise à jour concernant deux de nos quatre régions, le Moyen-Orient et Afrique. J'ai avec moi Pierre Danginou qui assure nos activités en Afrique et je lui en remercie. Dans cette diapo suivante, nous avons des exemples des parties prenantes dans la région. Comme vous voyez, nous fournissons l'assistance à 398 registres qui sont éparpillés sur 30 pays. Concernant ces deux régions dont je parle, vous noterez que 13 des registres viennent d'Afrique du Sud et 15 viennent des Émirats Arabes Unis. Dans cette autre diapositive, nous voyons les bureaux d'enregistrement. Nous travaillons avec 192 bureaux d'enregistrement qui sont répartis entre 40 pays. Comme vous voyez, 5 sur le total sont dans les Émirats Arabes Unis. Voyons maintenant la stratégie pour le Moyen-Orient et les pays arabes. Il y a eu une initiative dirigée par la communauté pour définir la stratégie qui orientera notre participation dans le Moyen-Orient et les pays arabes qui l'entoure. Cette stratégie reprend ce que nous avions élaboré pour la période 2013-2016 et je vous expliquerai maintenant comment cette stratégie a été créée. En juin 2016, un groupe de travail sur la stratégie composé de 48 membres de la communauté et 2 observateurs a été établi et a suivi un processus de consultation de 3 mois. Le groupe a consacré 4 mois à l'élaboration d'une stratégie régionale sur une période de 3 années, qui allait de 2016 à 2019. Une stratégie préliminaire a été publiée pour consultation publique. Nous avons reçu des commentaires publics et un document final fut publié en décembre, le 7 décembre 2015. Le plan de mise en œuvre était conclu et publié en décembre 2016. Cette diapositive aborde la déclaration de mission sur laquelle la stratégie a été élaborée. On dit ici que la stratégie est censée être une stratégie pour attirer des participants plus impliqués et plus actifs de la région du Moyen-Orient et des pays qui entourent la région, afin que ces personnes puissent contribuer au processus d'élaboration de politiques de l'ICAN et occuper des postes de direction au sein de la communauté de l'ICAN. Pour cela, nous avons identifié 3 domaines d'intérêt principaux, donc soutenir l'infrastructure sécurisée, stable et résiliente du DNS dans la région, de promouvoir un marché des noms de domaine concurrentiel et sain dans cette région et de préciser le rôle de l'ICAN dans un écosystème Internet en évolution à travers notre participation avec la communauté de la région. Pour la première année, nous nous sommes donc proposés d'élaborer des programmes adaptés pour faire participer d'autres différents groupes de parties prenantes, des secteurs académiques, de la société civile, des gouvernements, entre autres, de soutenir le centre d'entrepreneuriat du DNS à travers le développement d'une expertise locale qui aide à faire grandir le marché des noms de domaine dans la région et de développer des capacités locales à travers le programme de formation de formateurs afin de soutenir les activités de formation de compétences dans la région. L'ICAN, dans le dernier trimestre, a tenu différents ateliers pour renforcer la participation de la communauté. D'une part, nous avons organisé un atelier sur le DNSSEC en Turquie, à Ankara, en partenariat avec le Centre d'information de réseau, qui a attiré 30 participants qui se sont réunis pour apprendre sur l'importance du DNSSEC. Nous avons également tenu 3 ateliers pour les agences d'application de la loi dans les Émirats arabes unis, au Qatar et au Liban. Et nous nous sommes concentrés sur la manière d'évaluer l'utilisation malveillante et la mauvaise utilisation du DNS. Nous avons également lancé une initiative de formation des jeunes en partenariat avec le réseau d'éducation et de recherche tunisien. Nous avons eu une bonne structure qui expliquait comment fonctionne le système des noms de domaine et comment pouvoir avoir des opérations de DNS stables et sécurisées, ainsi que le rôle et la structure de l'ICANN. Il faut ici que je remercie Wafa Damani et Tilsen Benjema de la communauté à large qui nous ont aidés à organiser cet événement. Le centre d'entrepreneuriat DNS a également tenu son premier atelier à Cotonou, au Bénin, en Afrique, en décembre, en partenariat entre l'ICANN et la NTRA de l'Égypte. C'est un centre qu'on a créé ensemble et on y a organisé un atelier qui se concentrait sur le secteur des noms de domaine et les plans de mercatique. On voit ici les noms de domaine internationalisés et le script arabe spécifiquement. C'est l'un des projets principaux dans la région du Moyen-Orient, vu son importance pour la communauté du script arabe. Ce groupe était formé en octobre 2013 et il s'est séparé de la stratégie régionale de 2013. L'ICANN a aidé à faciliter l'approche compréhensive de l'équipe de travail d'aborder les besoins de la communauté du script arabe. L'équipe comprend 35 membres de plus de 10 pays et couvre plus de 10 langues qui utilisent le script arabe. Le groupe est ouvert à tous ceux qui veulent s'y joindre et participer. C'était le premier groupe linguistique à aborder les règles de génération d'étiquettes au niveau de la racine et ils ont présenté leur document final à Marrakech lors de la 55e réunion publique de l'ICANN. Nous avons également tenu des appels en téléconférence 2 par semaine et nous avons eu 5 réunions présentielles jusqu'à présent. La dernière réunion a eu lieu à Istanbul du 24 au 26 septembre 2016. Concernant nos travaux au Moyen-Orient, nous continuerons de faire participer nos parties prenantes et d'encourager leur participation au processus de l'ICANN en leur fournissant des formations de renforcement des capacités et leur fournissant également le soutien nécessaire. Voyons maintenant la région africaine. On voit ici les objectifs généraux de la stratégie africaine pour la période 2016-2020. Notre stratégie était dans cette période divisée en 2 objectifs sur lesquels nous avons travaillé au cours des 4 dernières années. D'une part, de transformer l'industrie Internet et du DNS en Afrique et deuxièmement, de promouvoir la sensibilisation et de faire augmenter la participation de l'Afrique au sein de l'ICANN. Je montrerai ici certaines activités clés du dernier trimestre. Vous verrez maintenant quelques-uns des événements régionaux auxquels nous avons participé. Au total, il y a eu plus de 18 événements où nous avons eu différentes parties prenantes qui ont participé. Nous avons également établi des initiatives de coopération avec les gouvernements africains et avec les entités de réglementation pour aider à promouvoir le travail de l'ICANN et le modèle multipartite. Je voudrais maintenant vous présenter 2 événements très importants qui étaient des événements que nous avons organisés pour la première fois. Le premier était la journée d'information des parties prenantes africaines où Yoran Marbi a participé en octobre dernier à Nairobi. C'était la première réunion de l'ICANN et du modèle multipartite dans la région où les entités gouvernementales, le secteur commercial, le secteur académique et les communautés d'utilisateurs ont participé. En outre, en janvier, nous avons organisé un événement de renforcement des capacités en partenariat avec l'autorité des communications et le gouvernement du Kenya pour la communauté africaine du GAC. C'était encore une fois un événement sans précédent qui a attiré des personnes de 18 pays, plus de 60 personnes. Il s'est concentré sur la sensibilisation et a aidé à renforcer les capacités des représentants africains du GAC et de leurs gouvernements respectifs. L'événement se concentrait sur l'élaboration de politiques de l'ICANN et sur les questions urgentes et d'intérêt de nos temps. Les discussions ont impliqué des groupes de travail, ce qui comprenait les groupes de travail intercommunautaires et du GAC, qui requièrent l'attention immédiate et la participation immédiate des membres du GAC. Voyons maintenant le travail de l'ICANN en Afrique. Dans l'avenir, nous continuerons de nous concentrer sur la sensibilisation. nous utiliserons l'atelier de renforcement des capacités de Nairobi, qui était un succès. Et à partir de cette expérience, on visera à consolider notre engagement avec les représentants africains du GIEC. Nous demanderons également à notre communauté de soutenir nos initiatives pour faire passer le message de l'ICANN, et nous demanderons également à la communauté du DNS de nous aider à finaliser notre rapport de l'étude du marché du DNS pour pouvoir présenter la version formelle finale lors de la réunion de Copenhague. Cela conclut mon rapport, Brad, et je vous rends la parole. Merci. Brad White au micro. Merci. David, il n'y a pas de questions pour David, donc nous allons passer à la mise à jour de Xavier Calves, qui est ici à Los Angeles, et nous présentera les informations financières. Xavier? Merci, Brad. Je suis Xavier Calves, le responsable financier de l'ICANN. Je présenterai les informations financières pour la première moitié de l'exercice fiscal 2017, entre juillet 2016 et décembre 2016. Je commencerai avec un aperçu de la structure de rapport financier de l'ICANN pour vous aider à comprendre les informations qui suivent. Par la suite, nous allons présenter la révision de la performance financière de l'ICANN pour la période. La structure de rapport financier de l'organisation ICANN comprend trois domaines principaux. Les opérations de l'ICANN en bleu, le programme des nouveaux GTLD en orange. Chaque secteur est soutenu par des fonds dédiés qui sont gérés par la direction de l'ICANN qui apparaissent ici. Les opérations de l'ICANN comprennent les fonds que nous recevons des parties contractantes principalement, les dépenses de base et les déboursements associés au projet de la transition du rôle de supervision des fonds Soyana. Les déboursements de base comprennent les coûts des opérations de l'ICANN et les coûts des fonctions de l'IANA qui sont principalement exploités par l'entité juridique récemment formée appelée PTI. Le programme des nouveaux GTLD est un programme pluriannuel de 360 millions de dollars qui a été lancé en 2012 pour créer de nouveaux noms de domaines de premier niveau. Les fonds qui sont compris ici comprennent les fonds pour les opérations de l'ICANN, les fonds destinés au programme des nouveaux GTLD et les revenus des enchères des nouveaux GTLD. Ce sont les fonds que nous utilisons donc pour gérer et soutenir ce que je viens de dire. Voyons maintenant la performance financière de l'ICANN dans le premier semestre de l'année. La position financière des opérations de l'ICANN reflète un surplus de 4 millions de dollars, ce qui se compare à un déficit qu'on avait prévu de 2 millions de dollars. Ce résultat favorable résulte du fait que nous avons reçu 1 million de dollars de fonds de plus que prévu. Nous avons réduit les déboursements de base de 5 millions de dollars, ce qui se compensait avec des coûts qui était un peu plus élevé pour les déboursements associés à la transition du rôle de supervision du fonds Soyana. Voyons maintenant les fonds des opérations de l'ICANN. Les fonds destinés aux opérations de l'ICANN viennent d'une part de la quantité d'enregistrement annuel des noms de domaines, ce qui résulte en frais de transaction que nous percevons, et puis la quantité de parties contractantes qui ont signé des contrats avec l'ICANN, ce qui fait augmenter, bien sûr, les frais fixes collectés des registres et des bureaux d'enregistrement. Les fonds sont plus élevés que prévu, d'une part parce que les bureaux d'enregistrement ont des frais fixes et autres qui sont de plus de ce qu'on prévoyait, parce qu'il y a eu des candidatures pour l'accréditation de nouveaux bureaux d'enregistrement dans les premiers 6 mois de l'exercice fiscal. L'ICANN ne prévoit pas des chiffres ambitieux pour être conservateur par rapport à la quantité de candidatures reçues, ce qui ne peut pas être prévu. D'autre part, la quantité de contributions et de partenariats sont également plus que prévues. D'autre part, ces partenariats et contributions, comme je disais, sont plus élevés que prévus. Les enregistrements de domaines pour les registres et les bureaux d'enregistrement qui font augmenter les frais de transaction sont de moins du budget parce qu'on a eu une croissance plus faible dans les transactions pour le premier semestre. Et finalement, les frais fixes des registres sont de moins que prévu. Voyons maintenant les informations du budget pour l'exercice fiscal 2016. Notre catégorie principale de déboursement sont les coûts de personnel, à gauche sur le graphique, qui représentent à peu près la moitié de nos déboursements totaux. Les coûts de personnel sont de 9% moins que prévu dans le budget, ce qui correspond au fait que nous avons 340 membres du personnel et non pas 364 comme prévu, et nous avons des compensations moyennes plus faibles que prévu. Les coûts de déplacement et d'administration sont à peu près comme prévu dans le budget, alors que les services professionnels et le capital reflètent des différences vis-à-vis du plan, ce qui résulte en une différence à faveur du budget. Voyons maintenant le projet de transition du rôle de supervision des fonctionnaires. Les déboursements associés à ce projet correspondent relativement au budget prévu pour la première moitié de l'exercice fiscal. Les déboursements associés à ce projet consistent principalement du soutien au personnel et des frais juridiques pour soutenir la préparation de la mise en œuvre intensive, ce qui comprend la création de l'entité PTI et la rédaction des statuts constitutifs et de différents contrats, ce qui a été effectué en début de l'exercice fiscal. Voyons maintenant les informations financières associées au programme des nouveaux GTLD. Les déboursements associés aux nouveaux GTLD sont un peu plus élevés que prévu dans le budget, ce qui correspond principalement aux coûts de défense et aux frais des enchères qui ont été encourus mais qui n'étaient pas prévus dans le budget. Ces coûts non prévus se compensent partiellement par une variation favorable des remboursements qui résultent d'une quantité de candidatures retirées plus faible que prévu. Voyons maintenant l'état de situation des fonds gérés, les fonds opérationnels que nous utilisons. Les fonds d'opération de l'ICANN, sur la gauche, représentent les fonds utilisés pour soutenir les opérations quotidiennes de l'ICANN, ainsi que les réserves qui sont réservées pour faire face aux événements imprévus ou à des incertitudes économiques. Le fonds d'opération de l'ICANN reflète une augmentation, surtout en raison des frais perçus dans le trimestre précédent et les remboursements du fonds de réserve pour les coûts de la transition du rôle de supervision des fonctionnaires encourus entre janvier et juin 2016, ce qui se compense partiellement avec les paiements aux employés et aux fournisseurs au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal, de l'exercice fiscal. La réduction du fonds de réserve correspond au remboursement du fonds opérationnel entre janvier et juin 2016 concernant les déboursements associés à la transition du rôle de supervision des fonctionnaires. Sur la droite, les fonds liés au programme des nouveaux GTLD comprennent les fonds des nouveaux GTLD et les revenus des enchères. Les fonds des nouveaux GTLD sont la proportion non déboursée des frais de candidature collectés en 2012 et qui sont utilisés exclusivement pour payer les dépenses associées au programme des nouveaux GTLD et les remboursements des candidatures retirées. Comme ça le disait, les revenus des enchères résultent des revenus, justement, des enchères des ventes de nouveaux GTLD. Les enchères des nouveaux GTLD sont un processus qui offre un mécanisme de dernier recours pour résoudre les ensembles contentieux de chaîne. Les fonds des nouveaux GTLD ont diminué parce que les déboursements associés à l'évaluation encourus et les fonds remboursés associés aux candidatures résultent de ces candidatures qui ont été retirées. Voilà la fin de la présentation financière pour le premier semestre de l'exercice fiscal. Vous trouverez plus d'informations financières dans l'appendice de cette présentation et sur notre site web. Je rends maintenant la parole à Brad qui modérera la session des questions et réponses. Brad au micro. Merci Xavier. Nous avons une question de Donna Austin de New Star. Quelle est la proportion des déplacements et des réunions? Comment répartissez-vous le total? Merci Brad et merci Donna. C'est David au micro. La division entre déplacements et réunions spécifiques pour cette réunion, pour cette période particulière, montre que nous avons eu une réunion de l'ICANN au cours de cette période de 6 mois. C'était la réunion de l'ICANN à Hyderabad. Et les coûts encourus pour cette réunion de l'ICANN sont d'à peu près 4 millions de dollars. Le reste des coûts dans la partie des déplacements et des réunions comprennent les déplacements des membres du conseil d'administration ou des membres des unités constitutives pour assister aux différents événements dans la période. Merci. Brad au micro. Merci Xavier. Nous n'avons plus d'autres questions, ni sur le téléphone, ni en ligne. Donc nous allons conclure l'appel. Il faudrait noter par contre que beaucoup de personnes écouteront l'enregistrement de cette présentation qui sera publiée sur notre site web. Donc si vous êtes connecté au téléphone en ce moment ou si dans l'avenir vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à engagement@icann.org. engagement@icann.org. Nous vous y répondrons. Nous remercions tous nos participants et nous vous souhaitons tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bien, c'était une présentation détaillée.